Coritaken, c'est un personnage très particulier, on va dire presque iconoclaste dans le... On peut s'imaginer être un artiste d'art contemporain, enfin une artiste d'art contemporain, puisque Coritaken, c'est elle, qui est donc une religieuse, qui était une religieuse, donc décédée dans les années 86, dont le corpus artistique que vous voyez autour de vous date principalement de la première moitié des années 60, enfin, grosso modo 60 jusqu'à 67. Elle a mis en place une école de sérigraphie dans la congrégation religieuse dans laquelle elle était nonne, la communauté du Cœur Immaculé. À Los Angeles, dans le quartier de Los Feliz. Et on voit une photo de cet atelier ici. Et là, les deux photos qui sont en noir et blanc sur les deux tables sont aussi des images d'archives de ça. L'idée de Coritaken, c'était à travers, on va dire, tout le fonctionnement spirituel, mais aussi la fonction sociale d'une congrégation religieuse dans son écosystème, dans son contexte social, comment adresser les problèmes ou les maux du monde contemporain à travers le travail des enfants et des religieuses, etc. Donc elle a monté cet atelier de sérigraphie, on est au début des années 60, c'est le début de grandeur de la sérigraphie expérimentale américaine. Par exemple, il y a des discussions dont on a des transcriptions assez ahurissantes entre elle et Andy Warhol, des choses complètement dingues, mais ça c'est vraiment les logiques de collusion culturelle propre aux États-Unis et particulièrement à la côte ouest. Et voilà, et donc en fait, ce que vous voyez dans l'espace d'exposition, tout ce qui est au mur, ce sont des sérigraphies originales des années 60, et nous avons souhaité, pas simplement montrer un moment qui s'est passé, mais essayer de le réactiver et de prendre... appui sur les préceptes qu'elle avait mis en place pour cette école. Vous avez sur la table là-bas une liste de 10 rules, donc de 10, j'allais dire 10 commandements, on va dire instructions, des règles de travail pour l'engagement plastique et comment on s'adresse aux gens et comment on fait fonctionner cette école. Et donc moi j'ai proposé au service des publics de Passerelle de s'emparer de cette exposition et finalement d'y déménager pendant 3 mois pour travailler avec des groupes d'enfants, mais pas que, etc., avec différents publics, mais surtout des enfants évidemment, à travers le médium sérigraphique pour adresser les problèmes du monde, mais du monde contemporain, d'un enfant qui se trouve à Brest en 2018, comme elle travaillait avec des enfants dans les années 64 à Los Angeles. Parce que ce qu'on voit autour de nous, je parle des œuvres historiques, on voit des propositions qui parlent de la lutte des droits civiques, les luttes black des années 60. Vous savez que Los Angeles a été mis à feu et à sang avec les émeutes de Watts en 68-69. Par exemple, il y a une citation de Lyndon Johnson à un moment donné, qui était quand même ce qui récupère, après la mort de Kennedy, la conquête de la Lune. Et c'est, même si c'était initié par Kennedy, c'était cette conquête d'aller plus loin, d'aller vers le ciel, d'aller vers Dieu, etc., etc., se concrétise en 69 sous la présidence de Lyndon Johnson, qui était un fervent catholique, et donc elle mixe tout ça. On est vraiment dans une logique qu'on appelle dans notre jargon de l'histoire de l'art l'appropriation culturelle, où elle utilise des codes, des citations d'auteurs, des citations de personnages politiques ou même de pop culture pour faire passer un message qui se veut à la fois religieux, un peu moraliste, mais aussi profondément humaniste et avec une volonté d'action sociale directement effective. Et nous, à Passerelle, surtout je pense à l'équipe de l'atelier des publics, on a la prétention de croire que nous avons une efficacité, une efficience sociale. On s'est dit que c'était intéressant de le faire, d'utiliser ça. Et c'est un moyen de passer un peu outre simplement la présentation qu'un corpus historique qui serait un petit peu... Voilà.
Lauriane, je suis chargée de la médiation. Et en fait, avec les enfants, on leur fait créer des slogans avec des lettres découpées. Enfin, on leur propose d'écrire 3 mots. Et donc, ça a commencé avec, effectivement, on a une petite qui, du coup, a marqué son prénom, fusil et militaire, parce qu'elle veut devenir militaire. Et du coup, et on trouvait que c'était pas mal de marquer le slogan de l'armée qui dit « Devenez vous-même ». Et donc, il y a sur le prochain passage, ce sera l'écriture de cet enfant qui va venir aussi jouer. Donc, à chaque fois, c'est pareil. Là, il y a un autre enfant qui a marqué Pikachu, parce que voilà, c'est vraiment ce qui les intéresse. Ou aussi, vu qu'on a été champion du monde cette année, donc il y a aussi toute cette imagerie du football. Et du coup, Pikachu, l'idée, c'est de lui mettre aussi, pourquoi pas, le slogan d'EDF qui va venir avec. Voilà, c'est jouer aussi un peu avec eux et leurs préoccupations actuelles. Tout au long, on va essayer le mardi soir au maximum, et puis avec les classes, effectivement, de faire changer aussi les slogans, les images tout au long de ces 3 mois. Donc on a une table taille adulte et une table taille enfant, parce qu'il faut être, pour faire la sérigraphie, il faut être debout et courbé. Donc pour les enfants, celle-ci, elle est un peu grande. Et donc ça va être de venir tout au long de l'exposition, d'être là, présent avec les groupes, et de faire tirer les gens en direct, en fait. Alors des slogans qui ont déjà été pensés par d'autres, et avec aussi tout un alphabet qu'on a découpé dans les magazines, dans les journaux, tout ça, dans les posters aussi. Et donc tout cet alphabet va permettre de venir aux gens de créer leur slogan que nous on pourra ensuite préparer pour qu'il soit sérigraphié par d'autres personnes ou par eux-mêmes et ainsi de suite pendant comme ça.
Alors vous avez aussi dans cette vidéo qui est en fait un documentaire qui a été tourné à l'époque sur son enseignement. On la voit parler de ses principes, interroger ses étudiants, etc. Mais c'est pas une œuvre d'elle, c'est un documentaire sur son travail. On fait cet atelier en permanence donc pour poursuivre la proposition d'appropriation du public de l'œuvre d'art, mais aussi d'adresse au monde. Et ce que vous voyez sur les portants, ce sont des premières choses qui ont été créées par des enfants et qui vont, là, c'est les tout premiers qui viennent qui sont à peine secs encore et qui vont se fleurir de plus en plus pendant toute la période. Donc par exemple, ces deux tirages, elle a repris des bulles de la fameuse comic strip Peanuts. Life is difficult, isn't it, Charlie Brown? La vie est difficile, n'est-ce pas, Charlie Brown? Yes, it is, oui, ça l'est. Mais j'ai développé une nouvelle philosophie. Je ne m'inquiète qu'une fois par jour. Et là, celle-là, moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle le fait que ça soit fait par Corita Kent balance du Charlie Brown dans un univers catholique qui n'est pas le cas au départ. Bonjour Big Pen, qu'est-ce que tu fais? Rien, j'aime juste m'asseoir ici et regarder le reste du monde me passer devant. Et donc la personne, l'interlocuteur répond, apparemment il y a quand même pas mal de gens qui, plutôt que de passer devant toi, restent là quoi. On est vraiment dans une espèce de collusion des intentions et des origines culturelles. Tender be, être tendre, soyons tendres, nous sommes. Et tender, c'est adresse à l'autre et tout. Et dans les textes qu'on voit, en tout petit ici, Corita Kent parle du Mary's Day, donc le jour de Marie, qui est en fait donc la Vierge Marie était la sainte à laquelle la congrégation religieuse était dédiée. Et chaque année, il y avait le Mary's Day, donc une journée processuelle, etc. Vous voyez une photo de ce qui se passait. Et Corita Kent, avec son école, avec ses étudiants et ses nonnes, a utilisé ce Mary's Day et cette logique processuelle comme un moyen, un vecteur de monstration, en fait, de ce travail et de questionnement du monde. Et voilà. Et alors, le texte est génial parce qu'elle écrit un peu comme elle parle et elle explique, comme si elle parlait à ses étudiants, parce que c'est ce qu'on peut supposer en le lisant, que ce qu'elle pense que Marie penserait du fait qu'il fasse du pop art dans l'espace public pour la célébrer elle-même. Donc oui, je pense que Marie a éclaté de rire. Elle a ri de tout son cœur, sans rancœur, avec une grande compassion et un réel respect. Si elle était physiquement ici aujourd'hui, elle rirait sûrement. Elle se moquerait de nos couronnes. Elle se moquerait de notre pop art. Elle rirait avec compassion de la consternation et des doutes de certains d'entre nous face à cette explosion de sons, de couleurs pour une journée de célébration religieuse. Elle va même se faire virer de sa congrégation religieuse à la fin des années 60, notamment pour avoir été un peu trop poussé, donc côté pop art et côté Vatican II, puisqu'elle va prendre des positions sur les questions de mœurs, etc., sur l'homosexualité, qui l'évêque a pas... Non, c'est un peu tôt. Au-delà même de tout le contenu de ce travail, il y a vraiment une force visuelle fantastique. C'est chouette aussi qu'on puisse amener du pop art ici à Brest. C'est un super support visuel et pédagogique pour les publics qui sont les nôtres. Et je pense que dans un monde dans lequel on vit qui est autant, si ce n'est peut-être plus clivé que celui des années 60, ou en tout cas différemment clivé, mais qui l'est, je pense qu'arriver dans un centre d'art contemporain qui est le temple de l'anticléricalisme classique, arriver à travailler avec ça tout en restant dans une logique de laïcité intelligente et ouverte, ça me paraît important.